RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les quatre drôles de dames, c'est la mi-temps en Allemagne, mène de Buzyn face aux Pays-Bas et Angleterre-Finlande. C'est toujours pas la mi-temps. Si c'est la mi-temps, 0-0 entre les Anglais et les Finlandais. Débrief tout à l'heure dans l'after hein, avec Gilbert Bribois. Proposition de Polo par mail. Hein. On s'envoie des mails dans la journée, vous envoyez vos propositions et puis on fait des choix. Il voulait, pendant cette trêve internationale, eh bien, évoquer le club de vos championnats respectifs qui ne vous intéresse pas vraiment, historiquement. Pourquoi pas? Je sais que Fred était content de l'idée. Johan, le problème, c'est que lui s'intéresse à tous les clubs, Serie A, Serie B, Serie C, et trouve une histoire toujours à raconter, évidemment aussi. Polo aussi, d'ailleurs, mais ça n'empêche pas de moins s'intéresser, ou en tout cas de fustiger un club en Allemagne. Lequel, mon cher Polo?
Bah, c'est évidemment Wolfsburg pour parce que son modèle est très particulier, il est différent de quasiment la majorité des clubs allemands. Donc c'est ce qu'on appelle en Allemagne un Werksclub, donc un club d'entreprise. Il y en a déjà un en Allemagne, hein, c'est Leverkusen qui est comme ça. Mais ce qui est très intéressant avec Wolfsburg, si tu veux, c'est la première fois qu'ils sont montés en Bundesliga, donc c'était à la fin des années 90. Moi j'étais en Allemagne et je suivais ce club-là qui n'avait très peu de moyens, qui appartenait déjà à la multinationale Volkswagen, et il a fallu quelques années en Bundesliga, où ils se sauvaient tout le temps. Il a fallu l'arrivée de Félix Magath pour qu'on change de dimension et qu'on décide, et que la multinationale Volkswagen décide de mettre beaucoup, beaucoup d'oseille dans le club pour en faire un club de niveau européen. Et ce qui est extraordinaire, à la différence de Leverkusen, par exemple, qui a une véritable identité, par les jeunes, par son histoire, etc., c'est que Wolfsburg, ils mettent chaque année de l'argent, donc ils vont acheter des joueurs à 15, 20, 25 millions, et en fonction, le public, c'est essentiellement des employés de Volkswagen. Il n'y a pas de culture pour pousser le club dans le stade. C'est un stade de 30 000 places qui fait rigoler en Bundesliga. Donc, qu'ils soient en Ligue des Champions, qu'ils soient en Coupe d'Europe, ce qui est leur standard normalement par rapport à l'effectif qu'ils ont, eh ben, ils peuvent aussi échouer. Et en fait, c'est les joueurs qui décident est-ce qu'on fait une bonne ou une mauvaise saison. Les coachs passent, il y en a eu d'excellents, il y en a eu des moins bons, etc. Mais en fait, ce club ne serait pas là, ce serait exactement la même chose, parce que c'est un Werksclub. Et d'ailleurs, je me rappelle de Rudi Völler à l'époque, qui disait le vrai Werksclub, le vrai club d'entreprise, c'est nous, en parlant de la multinationale Bayer, évidemment. Et eux voulaient récupérer, évidemment, marketing, tout ça. Alors, il faut juste comprendre pourquoi Wolfsburg est arrivé à ce niveau-là. C'est parce qu'à l'époque, qui avait l'ancien PDG de Volkswagen, qui s'appelait Winterkorn, avait décidé d'utiliser le club de football pour vendre le plus de bagnoles en Allemagne. Et donc, il a investi en tout par an plus de 200 millions d'euros. Et donc, voilà, Wolfsburg, finalement, bah, ils ne sont pas en Europe depuis quelques années, tout le monde s'en fiche. Ils seraient en Europe, et Fred s'en rappelle, le duel contre le Real, ou le titre surprise en 2016, il me rappelle bien, le titre surprise en 2009, sous les ordres de Félix Magath, avec Dzeko et Graffité, notamment devant. C'était des très belles équipes. Et en fait, tout le monde s'en fiche. Ça fait pas la une des médias.
Bon, l'histoire de Wolfsburg, Polo, c'est que De Bruyne est passé par Wolfsburg. Voilà.
Ben oui, c'est mais ça. Il est parti, ils ont fait une belle plus-value. Mais voilà, ça s'arrête là. Et Dzeko est évidemment un des meilleurs attaquants de sa génération.
Allez.
Mais tu vois les joueurs qui passent. Et puis, oui, et qu'est-ce qui reste, historiquement parlant? Ben, on ne sait pas.
Est-ce qu'il y a un club dont tu te fous en Italie, mon cher Johan?
Non, il n'y en a pas. Ça va être très court parce que non, j'en ai pas. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes les politiques sportives qui sont menées, que je trouve tout bien fait ou ce genre de choses-là, mais même dans des politiques sportives mal gérées, j'y trouve un intérêt justement de voir ce qui est mal fait. Donc non, il y a pas. Non, on a fait la liste des clubs même ensemble tout à l'heure. Non, il y en a pas où je me dis non, rien à faire. J'ai pas envie de regarder leurs matchs. J'ai pas envie de suivre ce qu'ils font, comment ils recrutent, qui ils mettent comme dirigeant, qui choisissent comme entraîneur. Non, il y en a pas. Fred.
C'est facile, c'est Retafé.
Okay.
Déjà un club qui est plus jeune que moi dans sa version actuelle, ben ça m'étonne. Il est né, j'avais 13 ans. C'est un club qui Retafé, qui est composé. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont très très fans de Retafé, il y en a quelques-uns, mais en général, ils sont soit supporters du Real, soit supporters de l'Atlético. Retafé, c'est une grosse banlieue ouvrière, notamment avec l'aéronautique. Il y a un bout d'Airbus qui est fabriqué là-bas. Voilà, au sud de Madrid, c'est à peu près 30 bornes, 30-40 bornes. Le président historique de Retafé est un socio du Real Madrid. Je trouve que c'est un club qui manque de personnalité. Alors, ils ont essayé. Alors là aussi, j'écoutais ce que disait Polo. À un moment, ils ont essayé, parce que comme il y a c'est une cité un peu dortoir, il y a une grosse immigration. En Espagne, une grosse immigration de latinos. Donc, saison 2008-2009, ils s'étaient dit, tiens, on va essayer de faire venir les latinos notamment les Équatoriens, les Équatoriens qui sont la première communauté étrangère en Espagne. Et donc, ils avaient fait venir Guerrón. Guerrón, qui était un joueur équatorien, qui était la petite star là-bas en Équateur. Ils l'ont fait venir ici. Ça s'est très très mal passé, mais ils avaient fait un plan marketing en disant on ramène un joueur pour remplir le stade avec des Équatoriens. Donc voilà, c'est un club qui manque de personnalité. C'est un club qui tient surtout pour la personnalité de son président, mais qui maintenant depuis quelques années a comme personnalité de faire le football le plus monstrueux d'Espagne, violent. On parlait l'autre jour, zéro tir au but, enfin tu vois, zéro tir cadré, c'est-à-dire que c'est puis il fait froid l'hiver, enfin c'est vraiment, c'est, moi j'aimais pas aller à Rétafé quand il fallait voir le Real ou le Barça, j'aimais pas aller à Rétafé quoi.
Julien, est-ce qu'il y a un club en Angleterre sur lequel tu fais l'impasse, pour lequel tu fais l'impasse? Julien, es-tu là?
Julien, si tu l'as,
ah, Julien. Pardon, excuse-moi.
Vas-y,
non,
Julien.
J'avais oublié de remettre le micro. Non, je disais, moi, je suis comme Johan. Moi, même si je suis pas d'accord avec tout, les styles de jeu sont pas toujours, me font pas toujours kiffer, mais je trouve qu'il y a toujours des histoires à raconter, c'est toujours intéressant. De toute façon, il y a toujours quelque chose qu'on apprend en regardant toutes nos équipes. Donc, pour moi, non, j'ai pas vraiment de club.
Oui, on peut apprendre ce qu'il faut pas faire, ouais. Ça c'est clair.
Allez, la quatrième minute de la soirée.
Non, mais tu peux te dire ça, mais dans un sens, Fred, juste pour finir, Rétafé qui se maintiennent, même si c'est un football qui nous plaît pas, même si c'est chiant, même si c'est bordelasse, même si c'est tout ce que tu veux, ça reste en soi quand même quelque chose d'assez bien de leur part, avec un petit budget comme ils ont, de réussir à se maintenir dans une ligue comme la Liga.
Ouais, mais moi je préfère Leganés par exemple, qui fait l'ascenseur, etc. C'est à peu près le même genre de club. Mais Leganés, c'est un club qui a 96 ans, c'est à peu près la même population, 190 000 habitants.
Après, Leganés n'est pas responsable de sa jeunesse.
Non, mais tu sais la différence entre les deux, c'est qu'à Leganés ils sont très sympas. À Rétafé ils se la pètent.
Bon, la quatrième minute de la soirée, on envoie la musique, elle est italienne.
Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai. Ma so di certo cosa stai pensando.
Lucio Battisti e penso a te. Et je pense à toi. Pourquoi? Bah, toute l'Italie pense à un ancien joueur en ce moment. On pense très fort à un ancien joueur, Toto Schillaci. Grand attaquant d'une Coupe du Monde, d'un mondial, le mondial 90. Et c'est.
Ah bah ouais.
Ah oui, mon polo, je savais que ça allait te plaire.
Quand tu m'as dit grand attaquant, j'ai eu peur.
Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai après, précisé d'une coupe du monde. Exactement. Qui avait évidemment marqué Coupe du Monde en Italie d'ailleurs, qui avait marqué évidemment ce Mondial 90 grâce à ses buts. Attaquant qui n'était pas spécialement attendu à ce niveau-là, parce que ça n'a jamais été un grand attaquant de championnat, même s'il y a eu un passage à la Juve qui n'a pas duré si longtemps que ça non plus. Mais c'était les nuits magiques des années du Mondial 90 en Italie, je vais y arriver, où tout semblait possible pour cette équipe italienne, qui ne l'a pas gagné évidemment, mais en tout cas tout paraissait possible. Il y avait un enthousiasme assez dingue autour de Toto Schillaci, qui était un peu le héros que tous les enfants voulaient devenir, c'est-à-dire arriver de nulle part, jouer en Coupe du Monde, marquer pour ta sélection, la porter à bout de bras sur une bonne partie de la compétition. Et Toto Schillaci est hospitalisé dans un état grave en ce moment. Ça fait plusieurs mois qu'il a annoncé qu'il avait un cancer, qu'il se bat contre ce cancer. Et il est dans un état assez compliqué, même si on a eu des informations aujourd'hui sur une amélioration de son état. Je passe sous le protocole médical, mais en tout cas, on va lui souhaiter évidemment de s'en sortir, de retrouver le sourire, de retrouver sa verve, sa personnalité, qu'il ne change pas, qu'il puisse continuer à nous raconter ses nuits magiques du Mondial 90. Et c'est vrai qu'en Italie, c'est compliqué parce que en décembre 2020, on a eu Paolo Rossi, qui était l'autre héros, Coupe du Monde 82. En 2023, on a eu Gianluca Vialli, qui n'a pas marqué une Coupe du Monde comme les deux autres, comme Schillaci et Rossi, mais qui était une personnalité très appréciée, au-delà même d'être un grand attaquant, lui, pour le coup, de Serie A, mais qui avait une personnalité géniale, qu'on avait un peu redécouvert ou remis en lumière au moment de l'Euro 2021, puisqu'il était un des adjoints collaborateurs techniques de Roberto Mancini. On avait vu son importance, comment les joueurs l'adoraient, l'appréciaient. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup pour des attaquants qui ont marqué l'Italie et qui ont marqué une période très précise de l'Italie.
Et du foot hein, européen, on était gamin à cette époque-là. Hein. C'est un nom qu'on retenait, qui émerge. La rythmique, Toto Schillaci, c'est un nom aussi qui claquait. Je trouve, et le personnage aussi, qui sort du chapeau pendant ce Mondial 90. Dans un instant, vos questions aux drôles de dames au 32-16. Restez avec nous, RMC.
Génération After.